Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'histoire des Magden Sisters. Derrière ce nom poétique se cache en fait la vie de milliers de jeunes femmes irlandaises enfermées de force dans des couvents, victimes du puritanisme de l'Église catholique. Tout au long de son histoire, l'Irlande a connu de nombreuses tragédies, visibles et commémorées comme la Grande Famine de 1840 et celle qui reste plus profondément enfouie, ignorée et occultée dans la mémoire collective. Le calvaire des Magdalen Sisters en fait partie. De 1922 à 1996, la très catholique Irlande envoie dans des institutions religieuses appelées Magdalen Homes près de 10 000 femmes considérées comme perdues, dangereuses, immorales. Ce sont les orphelines, les jeunes filles violées, les adolescentes rebelles, les mères célibataires. Abandonnées dès lors, rejetées par la société, elles sont contraintes de travailler gratuitement dans d'immenses blanchisseries. Des esclaves, en fait, en robe brune, payant de plusieurs années, parfois une vie de réclusion, le fruit de leur péché, victimes d'une inquisition des temps modernes. Pendant plus de 70 ans, l'Irlande ferme les yeux sur ce drame. Les Magdalen Sisters, elles, gardent le silence, étouffées par la honte. À la fin des années 90, alors que le pays se modernise de façon spectaculaire, quelques courageuses osent enfin parler. Voici leur histoire. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Nathalie Seban. Spécialiste en études irlandaises, elle prépare actuellement une monographie sur les Magdalen Homes qui sera publiée chez l'éditeur Peter Lang. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jakubowiez.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Irlande, 1949. Angela a 15 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Et à vrai dire, elle sait à peine ce que cela signifie. Elle n'a vu ce garçon qu'une seule fois, un premier baiser, puis tout est allé si vite. Les nausées, l'absence des règles, le corps qui change. « Je crois que tu vas avoir un enfant », lui annonce sa mère, bouleversée. Mais les larmes laissent place à la colère de son père, puis à la honte. Dans cette Irlande rurale, façonnée par le catholicisme, un enfant hors mariage est un sacrilège. Selon l'Église, le sacrement est le seul cadre légitime de la sexualité et de la procréation. C'est aussi une malédiction, car tout le système social repose alors sur la communauté villageoise, une petite unité où tout le monde se connaît, où tout se sait et où tout se colporte vraies et fausses informations. L'honneur familial doit être préservé à tout prix. Non, personne ne doit apprendre la grossesse d'Angela. Si ce n'est le prêtre, guide spirituel, moral et politique, lui seul peut remettre la jeune fille dans les trois chemins de l'Église. Condamnée par une justice informelle et donc illégitime, la sentence est sans appel. L'adolescente, devenue une fille-mère selon l'expression consacrée, doit être éloignée, placée dans un endroit où l'on est sûr de l'oublier. Noël 1949, Angela sait à présent qu'il ne lui reste plus que quelques heures à passer auprès de sa famille. Dans sa robe des grands jours, entre les cantiques et le dessert, elle pleure sans arrêt. Ses frères et ses sœurs s'inquiètent, la questionnent, mais ils ne doivent rien savoir. Demain à l'aube, elle partira sans se retourner. Leur mère leur dira qu'Angela a trouvé du travail ailleurs, loin, oui, trop loin pour aller la voir. Dans le documentaire « Les blanchisseuses de Magdalen », réalisé en 1999 par Christophe Weber et produit par Sunset Press et France 3, Angela, alors âgée de 65 ans, revient sur ce douloureux départ.
J'ai été arrachée de ma maison au petit matin, mais il faisait encore nuit. On m'a amenée chez le prêtre qui devait m'accompagner dans ce foyer pour mères célibataires. Ma mère est venue avec nous. Ce fut un long voyage. J'étais vraiment bouleversée. Je ne savais pas où j'allais, ce qui allait m'arriver, et j'avais très peur en fait. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, on nous a présentés aux sœurs. C'était un couvent, le couvent du Sacré-Cœur. Nous avons pris le thé avec la révérende mère, et après, j'ai dû dire au revoir à ma mère. On m'a laissé là, dans un endroit totalement étranger.
« Situé dans le comté de Cork, au sud-ouest de l'Irlande, le couvent du Sacré-Cœur a triste allure. Une grande bâtisse de briques rouges et de pierres grises, entourée d'arbres nus, recouverts de neige. Il s'agit en réalité d'un Mother and Baby Home, un établissement religieux spécialisé dans l'accueil des mères célibataires. Construit à partir de 1904, il existe 9 établissements de ce type répartis sur l'île. En lieu et place de l'État, les religieuses jouent alors un rôle fondamental dans la société. L'éducation, la rééducation et la santé leur sont confiées à un précaré défendu avec intransigeance. Entre les quatre murs du couvent du Sacré-Cœur, Angela entre ici en réclusion. Prier, travailler, dormir, voilà désormais son quotidien partagé avec près de 200 filles mères, des adolescentes comme elle, et leurs nourrissons martyrs de l'intolérance et de l'inhumanité de l'Église catholique. À l'abri des regards, dans un silence monacal, Angela attend son accouchement. Une délivrance vécue en réalité comme un ultime châtiment. Car pour expier ses péchés, il lui faudra accoucher dans la douleur. Aucun cri, aucune plainte n'est tolérée par les religieuses pendant le travail. Sauf cas extrême, elle ne recevra aucun soin, et quand bien même, il sera sûrement trop tard pour la mère ou pour l'enfant. Malgré les blâmes et les souffrances endurées, Angela se souvient avec émotion de la naissance de Christopher, un jour d'automne 1950.
Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait autant de jolies jeunes femmes ici et tous ces adorables enfants. C'était une terrible honte pour votre famille et les nonnes nous répétaient sans arrêt que nous étions là pour faire pénitence, pour notre péché. Mais quand j'ai eu mon bébé, c'était merveilleux. Je ne réalisais pas que j'avais passé par autant de souffrances, mais c'était un enfant superbe. J'étais persuadée que mes parents reviendraient sur leur décision et qu'ils viendraient nous voir, nous ramèneraient à la maison. Mais ils ne l'ont jamais fait.
Comme toutes les autres mères célibataires, Angela sait depuis le départ qu'elle ne gardera pas son enfant. À son arrivée au couvent, auprès de la révérende mère, elle a signé un contrat. Un contrat qui lui oblige de promettre de ne jamais chercher à retrouver son bébé. Nourri et choyé pendant plus d'un an, Christopher lui est arraché des mains un beau matin, emporté par les sœurs. Oui, comme ça, sans autre forme de procès. Pour celle qui a déjà tout perdu, c'est une terrible déchirure. Que va devenir son enfant, la chair de sa chair ? Sera-t-il confié à une famille d'accueil, adopté ou bien placé dans un orphelinat ? Angela l'ignore. Pour le reste, elle peut désormais sortir du couvent, oui. Mais la liberté a un coût, 100 livres, une somme considérable à l'époque, qu'elle ne peut pas payer. Alors, pour s'acquitter de sa dette, elle devra travailler pour l'Église. 5, 10 ou 20 ans, il n'y a pas de règle, c'est au bon vouloir des religieuses. Certaines victimes n'en sont jamais sorties. Un système digne des pires régimes, le régime de l'arbitraire. Perdue pour les siens, précipitée dans les abîmes, Angela rejoint le destin de milliers d'autres jeunes filles irlandaises, désignées comme parias par tout un pays complice, cloîtrées dans des couvents-prisons. Certains sont baptisés Magdalen Home, des foyers pour Marie-Madeleine, dirigés par 4 congrégations, dont les Sœurs de la Miséricorde et les Sœurs du Bon Pasteur. Du nom de la prostituée repentie et pardonnée par Jésus dans la tradition catholique, les premiers couvents de Marie-Madeleine apparaissent en Irlande au XIXe siècle. Ils sont créés pour aider et héberger les filles dites « perdues »,« fallen women » en anglais. Désignant d'abord les prostituées, ce terme prend une acceptation plus large à mesure que le pouvoir de l'Église se renforce. Après la déclaration d'indépendance de l'Irlande du Sud en 1921, le catholicisme devient religion d'État et contrôle par le biais de ses multiples institutions les bonnes mœurs de ses fidèles. En 1922, on compte en Irlande 10 couvents de Marie-Madeleine, dont 4 à Dublin, en plein cœur de la capitale. Là, aux côtés de prétendues prostituées, vivent et travaillent des milliers d'orphelines, faibles d'esprit, jeunes filles violées, enfants illégitimes ou simples adolescentes rebelles, trop aguicheuses, trop jolies. La majorité d'entre elles sont des filles mères, comme Angela. Au cours du XXe siècle, on estime qu'environ 10 000 femmes sont passées par le Magdalen Homes, 30 000 toutes institutions confondues, un chiffre considérable dans un pays qui compte 3,5 millions d'habitants. L'enfer commence par une privation d'identité. À leur arrivée au couvent, les nouvelles pensionnaires doivent abandonner leur prénom remplacé par celui d'une sainte. Elles laissent aussi derrière elles leur tenue de ville, leurs effets personnels et tous les atours de leur féminité. Une première épreuve traumatisante pour ces jeunes adolescentes. En moyenne, elles y entrent à 14 ans. Dans le documentaire « Sex in a Cold Climate », réalisé par Steve Humphries en 1998, Christina, Martha et Phyllis, trois anciennes Magdalènes, racontent leur arrivée.
Je crois que j'étais en train de devenir folle.
Full of breast milk.
J'avais les seins remplis de lait.
I didn't know
je ne savais pas comment l'expliquer aux nonnes et je sentais la fièvre partout en moi. J'étais malade. Je suis allée à l'infirmerie pendant une semaine environ. Et quand je suis sortie, on m'a confisqué mes vêtements et j'ai dû mettre ce vieux truc épais et marron.
Elles m'ont enlevé mes vêtements et elles m'ont donné cette horrible et triste blouse. C'était informe. Elle voulait nous rendre aussi laides que possible.
Elle m'a dit que je devais me couper les cheveux parce qu'ils étaient longs et que ce n'était pas autorisé. Pourtant, je les avais joliment attachés en queue de cheval et je voulais les garder longs. Je crois que j'ai commencé à pleurer, mais on m'a quand même coupé les cheveux courts au niveau des oreilles.
Revêtues de l'habit de chasteté, les jeunes filles découvrent ce qui se cache à l'arrière des couvents, d'immenses ateliers de blanchisserie. Si Marie-Madeleine dut laver les pieds du Christ en signe de pénitence, les pensionnaires doivent laver le linge sale des prisons, des écoles, des hôtels ou encore du clergé. 10 à 12 heures par jour, 6 jours sur 7, 52 semaines par an. Les Magdalen Homes sont en réalité de véritables usines où les patronnes portent de longues robes noires et des coiffes à cornettes. Le Christ pardonne, les religieuses, non. Les pensionnaires sont totalement coupés du monde. Pas de journaux, pas de radio, aucun livre, si ce n'est la Bible. Pour celles qui ont eu la chance d'en recevoir, le courrier est lu, censuré par les nonnes. Les rares visites sont surveillées, parfois découragées, souvent interdites. Alors, la plupart des filles perdent pour toujours le contact avec leur famille. La vie est réduite à peau de chagrin entre la prière et les machines à laver. Dans le documentaire « Les blanchisseuses de Magdalène », Mary raconte leurs terribles conditions de travail.
L'été dans la blanchisserie, c'était comme dans le désert, tellement il faisait chaud. L'hiver, on avait des engelures sur les mains à force de manipuler les draps gelés. Il y avait une religieuse avec nous. Elle n'était pas trop méchante, mais elle était là à nous surveiller tout le temps. Elle ne travaillait pas. Son boulot, c'était de nous surveiller. En plus, il y avait des femmes plus âgées qui étaient là depuis des années, qui mouchardaient si on parlait trop longtemps à une fille. Et si on parlait trop longtemps à quelqu'un, le lendemain, on nous changeait de salle.
Dans les couvents, le droit du travail irlandais ne s'applique pas, évidemment. Les pensionnaires travaillent gratuitement, alors même que la plupart des Magdalen's Homes font d'importants bénéfices. De pécheresse, les femmes sont réduites au rang d'esclaves, enfermées à clé à l'atelier comme au dortoir. Désobéir, elles sont rouées de coups. Fuir, mais avec quelle aide, quel argent ? Livrées à l'arbitraire tyrannique des religieuses, brimées, humiliées quotidiennement, certaines deviennent folles ou se suicident. D'autres, convaincues de leur culpabilité, finissent par prononcer leurs vœux. C'est la force diabolique des dictatures, faire naître la résignation à force de douleur. La plupart des Magdalènes pourront sortir de leur prison au bout de quelques années de pénitence, oui, mais brisées par le sadisme de l'Église, marquées par le sceau de la honte. L'avènement de la société de consommation sera leur salut. Dans les années 70, la machine à laver apparaît dans les foyers irlandais et concurrence les blanchisseries Magdalènes. En parallèle, le Concile Vatican II adoucit les mœurs de l'Église. Moins d'activités, moins de pécheresses, les unes après les autres, les Magdalen Homes ferment leurs portes, réaménagées en maisons de retraite ou laissées à l'abandon. La dernière d'entre elles, située à Dublin, ferme ses portes en octobre 1996, il y a 20 ans seulement. Alors, comment l'Irlande a-t-elle pu laisser faire ça? Qui savait? Jusqu'à la fin du XXe siècle, dans une Irlande corsetée par la religion et le rejet du sexe dont il est une composante, les Magdalen Homes sont largement acceptées. Elles entrent même dans le langage courant. Les pensionnaires sont surnommées les Maggies, des mauvaises filles qui font les meilleurs draps, selon le proverbe. Et on menace les petites filles passages de les envoyer aux blanchisseries avec les sœurs. Peu en revanche savent ce qui se passe réellement derrière ces hauts murs de pierre. Car les anciennes Magdalen se taisent, oui, le silence plutôt que la honte. Dans les années 90, le boom économique irlandais entraîne une spectaculaire modernisation du pays. L'île pauvre de l'Europe devient le tigre celtique, et le pouvoir financier remplace peu à peu celui de l'Église. C'est en 1993 qu'éclate le premier scandale des blanchisseries Magdalen. Les sœurs de Notre-Dame de la Charité de Dublin vendent leur couvent à un promoteur immobilier. Sous les coups de pelleteuse, ils découvrent une fosse commune. Les corps de 155 pensionnaires de la blanchisserie sont exhumés. 22 d'entre eux ne figurent sur aucun registre. L'indignation est nationale. Mais l'État se défile, mal à l'aise. Officiellement, les blanchisseries étaient des institutions privées et les femmes des volontaires. En 1998, un documentaire télévisé leur donne enfin la parole. Sex in a Cold Climate, réalisé par Steve Humphries. Pour la première fois, d'anciennes pensionnaires dénoncent ouvertement les abus sexuels, psychologiques et physiques. Mais c'est comme souvent le cinéma qu'il les fait connaître du monde entier. En 2002, les Magdalen Sisters, réalisés par l'Écossais Peter Mullan, remportent le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Salué par la critique internationale et succès au box-office, le film déclenche les foudres du Vatican. Provocation pleine de colère et de rancœur, œuvre infâme et calomniatrice, dit le Vatican. Le temps de l'autocritique est encore loin. Résultat de ce raffut de bénitier, les journalistes s'emparent de l'affaire et recueillent de multiples témoignages. En Irlande, le clergé fait profil bas. Déjà fragilisé par le scandale des abus sexuels dans le clergé, il faut étouffer cette nouvelle affaire. Mais au micro de France Inter, le réalisateur Peter Mullan y voit une autre explication.
L'argent,
ça peut leur coûter beaucoup d'argent.
À ma connaissance, en ce qui concerne l'attitude de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de demande de compensation financière. Ce n'était pas là le sujet. En revanche, on voit qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a un tas de poursuites judiciaires contre l'Église pour des cas d'abus. Ils ont dû réaliser ou craindre que le nombre de femmes qui ont survécu au Magdalen Homes et qui auraient largement de quoi constituer des dossiers en vue de poursuites soit beaucoup plus important que tout ce qu'on peut imaginer. Alors que l'ironie de la situation, c'est que la plupart des femmes que moi j'ai rencontrées ne veulent pas d'argent. Elles veulent des regrets, des excuses sincères de l'Église, des excuses personnelles. Elles ont envie de retourner à l'Église et de faire la paix avec Dieu.
Après le film, la commission d'enquête sur la violence faite aux enfants, surnommée la commission Ryan, intègre un chapitre sur les Magdalen Homes. Pendant 9 ans, elle examine 2500 plaintes pour abus sexuels ou maltraitance physique. Elle auditionne près de 1000 victimes et elle étudie de manière approfondie le fonctionnement de plus de 200 écoles, couvents, maisons de redressement et autres orphelinats. Le 5 février 2013, l'État irlandais reconnaît officiellement sa responsabilité dans l'asservissement de plus de 10 000 Magdalen enfermés entre 1922 et 1996, 74 ans de sévices. Pour les victimes, cette déclaration est une première victoire. Elle ouvre enfin la voie aux compensations financières. Un an plus tard, un nouveau scandale éclate et répond partiellement à cette question laissée en suspens. Que sont devenus ces milliers d'enfants illégitimes arrachés par l'Église irlandaise aux mères célibataires ?
I was an unmarried girl. 7h37, l'horreur dans un ancien couvent catholique en Irlande, la découverte de près de 800 squelettes de bébés et d'enfants.
Et c'est l'histoire de ces filles perdues, de ces filles mères d'il y a 50 ans. On les a vues dans les films Magdalen Sisters ou plus récemment Philomena. Et voilà la réalité de plein fouet avec cette fosse découverte à Tuam dans l'ouest du pays. Sur place, le reportage signé Sébastien Baer.
L'institution avait été baptisée The Home, la maison, mais l'endroit n'avait vraiment rien d'un havre de paix. À l'intérieur, on cachait les femmes perdues, ces mères enceintes sans être mariées. De ce couvent qui a fermé ses portes en 1961, il ne reste plus grand-chose. À la place, une aire de jeu et un carré de gazon, juste à l'endroit où l'historienne Catherine Corless a établi la présence de 796 petits squelettes.
Quand j'ai découvert ça, j'ai été bouleversée. J'arrivais pas à y croire. Les rapports de 1947 évoquent des enfants décharnés, avec seulement la peau sur les os. Le pire, c'était dans les années 40. Chaque semaine, il y avait au moins un enfant ou un bébé qui mourait.
Les enfants sont morts de maladie et parfois de maltraitance. Dans la très catholique Irlande, tomber enceinte hors mariage était l'ultime péché et personne ne s'est intéressé au sort des enfants et de leur mère, raconte une habitante Teresa Kelly.
Personne n'en parlait, personne ne s'intéressait à elles, ni leurs parents, ni leurs proches. Avoir un enfant hors mariage était une honte et ces femmes n'étaient plus vraiment considérées comme des êtres humains. Donc il y avait un secret derrière tout ça. De façon tacite, personne n'abordait le sujet.
L'Église catholique a fait un timide mea culpa, souhaitant que la fosse commune devienne un lieu de mémoire. Une plaque commémorative sera bientôt apposée pour redonner une identité à ces enfants fantômes.
Tuam est une petite ville du nord-ouest de l'Irlande, bourgade isolée du Connemara. Au fond de l'aire de jeu de la ville, il y a une Vierge Marie et cette inscription à la mémoire de tous ceux qui sont enterrés ici. Elle date de 1975. À l'époque, la destruction de l'orphelinat catholique du Bon Secours met au jour une fosse commune. Des milliers d'ossements humains attribués sans investigation aux victimes de la grande famine des années 1840. Et puis voilà, le trou est rebouché, le prêtre bénit le site et les riverains créent un jardin du souvenir. Ans plus tard, en 2014, Catherine Corless, passionnée d'histoire locale, décide de retourner sur les lieux. Qui est réellement enterré ici ? Elle s'intéresse à l'orphelinat catholique du Bon Secours, fermé en 1961, et qui occupait auparavant le site. Petite fille du pays, elle se souvient de ces jeunes pensionnaires, ombres tristes, qui marchaient en rang dans les rues de Tuam. À l'école, ces enfants sont montrés du doigt, exclus, confinés au fond de la classe, victimes du lavage de cerveau de l'institution catholique sur une population qui n'a pas d'autre repère. Certains de ces gosses disparaissent du jour au lendemain, sans explication. Dans toutes ces institutions, le taux de mortalité est effrayant. Malnutrition, épidémie infantile, tuberculose, rougeole, un enfant sur trois meurt avant son premier anniversaire. Catherine Corless demande à consulter les registres de l'orphelinat de Tuam. Dans l'émission The Late Show, diffusée sur RTN One en juin 2014, elle raconte sa découverte.
J'ai demandé à l'orphelinat s'ils avaient les registres des enfants décédés ici. Et j'ai pu avoir 798 actes de décès d'enfants morts dans l'orphelinat.
Quel âge avait-il?
Ça allait de quelques jours à 3 ans. Le plus âgé avait 8 ans.
Et comment sont morts ces enfants?
Il y avait de nombreuses raisons, beaucoup de rougeole, de coqueluche, la diphtérie, la gastro-entérite et beaucoup d'autres choses. L'un d'entre eux avait une plaie sur la hanche, un autre une laryngite. Je ne sais pas, c'était un peu étrange.
Donc, il y avait 800 enfants inscrits comme morts, mais aucun n'a été enterré.
Non, aucune trace d'enterrement.
Que s'est-il passé?
Eh bien, c'est la question que je me pose.
Le scandale de l'orphelinat de Tuam déclenche un haut-le-cœur national et devient rapidement une affaire d'État. Les bébés morts d'Irlande font la une des journaux du monde entier. Catherine Corless, elle, reçoit une centaine de lettres de la part d'anciennes pensionnaires des Magdalen Homes, internées de force. Parmi les 796 bébés exhumés, nombreux sont sûrement les leurs. En Irlande, la boîte de Pandore est ouverte. Acculé par son passé, le pays s'engage dans une importante phase d'autocritique. Le chef du gouvernement, Enda Kenny, et l'archevêque de Dublin annoncent la création d'une commission d'enquête indépendante, non pour poursuivre d'éventuels responsables, mais pour accomplir, je cite, « un travail salutaire d'introspection collective ». Malgré cette bonne volonté affichée, de nombreuses zones d'ombre persistent. Car si certains enfants illégitimes finissent à l'orphelinat ou dans la fosse commune, d'autres sont adoptés par des familles étrangères. Entre 1949 et 1973, un trafic d'êtres humains se serait mis alors en place entre les religieuses et les organismes d'adoption. Selon le journaliste Mike Mellott, auteur du livre « Banished Babies », 2100 nourrissons de mères célibataires auraient été vendus aux États-Unis. Finalement, l'exploitation des filles mères irlandaises va bien au-delà de leurs forces de travail. Le fruit de leurs entrailles profite lui aussi aux institutions religieuses. Alors, des décennies après leur sortie du couvent, d'anciennes Magdalen se lancent à la recherche de leur enfant volé. Angela, dont vous avez entendu l'histoire en début de récit, n'a jamais retrouvé Christopher. Elle a suivi sa trace aux États-Unis, elle la perd dans le New Jersey.
Il fait toujours partie de ma vie. Vraiment. Maintenant que je vieillis, et sans doute à cause de ça, j'ai besoin de savoir. Je ressens le besoin de savoir quelque chose. Est-il marié? A-t-il des enfants? Quel travail fait-il? Et s'il est marié, a-t-il été un bon mari et un bon père? Des choses comme ça.
À sa sortie du couvent, Angela est retournée auprès de sa famille. Il lui faudra de nombreuses années pour pardonner à ses parents de l'avoir bannie alors qu'elle n'avait pas 15 ans. Bourré de remords, ils expliquent que tout ça, eh bien, c'est de la faute du camp, dira-t-on. D'autres Magdalens n'ont pas eu la chance de retrouver une famille, orpheline, adolescente, rejetée, oubliée dès lors. Elles ne sont jamais sorties des blanchisseries. En 1998, 2 ans après la fermeture de la dernière Magdalen Homes, elles y sont encore. À Dublin, sur Gloucester Street, de vieilles Irlandaises aux épaules voûtées continuent de hanter les lieux. Elles ont entre 60 et 80 ans, une quarantaine de mères célibataires qui ne savent où aller. Toute leur vie, elles l'ont passée entre les presses à vapeur et les messes. Des années à expier leurs péchés. Elles n'ont jamais fait à manger, jamais eu d'argent, jamais vécu avec un homme. Depuis les années 70, elles sont libres de partir, certes, mais pourquoi faire? Marginalisée depuis 40 ans, comment pourrait-elle s'en sortir? Alors, elle reste ici, dans ce vieux couvent de briques rouges, transformé à l'occasion en maison de retraite. Elles sortiront seulement le jour de leur enterrement. Au moins, je suis sûr que quelqu'un priera pour moi, dit l'une d'entre elles, qui croit toujours en Dieu, ce qui manifestement n'est pas réciproque. « Ce qui a réellement changé, c'est qu'elle partage aujourd'hui le quotidien des religieuses, mais d'égal à égal. Les anciennes matones sont devenues leurs compagnes d'infortune, unies dans la vieillesse. Pénitence, isolement et blanchisserie ne sont plus à l'ordre du jour. Dans le documentaire Les Blanchisseuses de Magdalene, une ancienne mère supérieure, Sœur Teresa, revient sur ces tristes années.
Nous ne comprenions pas la profondeur de leur douleur. Mais il y a une chose que nous avons toujours dit. On a plus péché contre elles qu'elles n'avaient péché. Autrement dit, elles étaient les victimes des péchés des autres. Nous les avons toujours considérées ainsi. Mais je regretterai toujours que nous ayons manqué de compassion. Si on se réfère aux évangiles, nous voyons que Jésus était plein de compassion. Donc j'aurai des regrets pour toutes les fois où j'ai pu manquer de compassion. Et j'en ai souvent manqué, par moments, mais je ne suis pas le Christ. Le Seigneur sait ce que nous avons fait ou pas. C'est comme ça. Lui seul connaît la vérité. Alors, peu importe ce que racontent les médias, nous n'avons pas à nous défendre. Parce que Dieu sait.
Si les religieuses préfèrent attendre le jugement dernier, le travail des historiens reste à faire. Des milliers de documents sont toujours classés confidentiels. Et des questions et des tabous demeurent. Combien se sont suicidés dans le silence de ces couvents avant d'être enterrés anonymement dans les fosses communes? Combien sont devenues folles? Quelles sommes ont-elles fait gagner à l'Église? Et puis, quels sont les autres pays concernés par ce scandale encore couvert par le témoignage du Vatican et surtout le silence du Vatican? Et comment les préceptes de l'Église catholique ont-ils réussi à s'immiscer jusque dans le cœur des religieuses devenues tortionnaires? Pour l'heure, l'histoire des Magdalene Sisters ne repose que sur des témoignages. Alors, les quelques dernières survivantes, regroupées au sein de l'association Justice for Magdalenes, continuent de se réunir et tentent inlassablement d'interpeller les autorités politiques et religieuses. Car il s'agit bien de rendre enfin leur nom aux 10 000 Magdalene Sisters, enfermées de force par l'Église catholique irlandaise pendant 70 ans.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. Holy, your loneliness says that you've sinned. Is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem.
hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.
France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le scandale des Magdalene Sisters. Notre invitée, l'historienne Nathalie Seban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en études néerlandaises, maîtresse de conférence à l'université de la Sorbonne. On dit maîtresse de conférence ou maître?
Je dis maîtresse de conférence.
Ah ben, on va lire alors. Vous préparez actuellement une monographie sur les Magdalene Homes qui sera publiée chez l'éditeur Peter Lang. Alors, comme nous l'avons évoqué, il existe très peu d'archives accessibles sur cette histoire. Comment avez-vous travaillé? À quoi avez-vous eu accès? Est-ce que c'était difficile?
Ça a été extrêmement difficile puisque j'avais décidé au début des années 2000, à la suite justement du documentaire diffusé sur France 3, ouais, de faire ma thèse de doctorat sur ce sujet. J'ai tenté en vain pendant 3 ans d'avoir accès à des sources primaires, puisque c'est le travail de base d'un historien-chercheur, ouais, et ça s'est avéré impossible. J'ai eu des contacts avec des religieuses d'anciennes Magdalene Laundries qui m'ont gentiment répondu que je ne trouverais pas ce que je cherchais dans leurs archives et que c'était tout à fait inutile de poursuivre dans cette voie. Donc j'ai travaillé un petit peu en contournant l'absence des sources et j'ai commencé à travailler sur les mères célibataires. Et c'est à partir de mon travail sur les mères célibataires que je suis retournée en arrière dans l'histoire et que j'ai pu revenir sur une démarche plus historique, plus 19e siècle, pour avoir accès à des sources auxquelles des historiennes avaient eu accès avant que le scandale éclate.
Existait-il l'équivalent masculin des Magdalene Homes?
Alors, il existait ce qu'on appelait des écoles industrielles. Ça, c'était des institutions qui étaient réservées, entre guillemets, aux enfants, dans lesquelles il y avait énormément de jeunes garçons qu'on considérait comme jeunes délinquants ou très pauvres ou dont on disait qu'ils étaient orphelins. Et c'est au sein de ces institutions qu'ont éclaté les premiers scandales sur ce qu'on a appelé « institutional abuse », donc la maltraitance institutionnelle en Irlande, auquel on rattache aujourd'hui les Magdalene Laundries et les maisons maternelles « Mother and Baby Homes ».
Bien, alors je reviens sur vos recherches, je voulais cette parenthèse, elle était importante. Par exemple, est-il possible de savoir précisément quels sont les bénéfices réalisés par l'Église catholique irlandaise grâce à l'exploitation des Magdalene Sisters? J'imagine que la réponse est non.
Non.
Bon. Mais ça a été pour vous...
Considérable. C'est oui, considérable, à tel point qu'aujourd'hui, l'Irlande est condamnée par le comité des Nations Unies contre la torture pour travail forcé, donc en gros esclavagisme. Donc c'est pas quantifiable et c'est pas quantifié. Les religieuses le savent certainement. Elles tenaient des registres très précis. Mmh. Et malheureusement, ces registres que la commission McAleese a eu entre les mains a pu consulter, elle les a rendus aux institutions, ce qui est aujourd'hui un véritable scandale pour le pays, pour les survivantes.
Alors, ce qu'on ne trouve pas en Irlande, peut-être peut-on le trouver aux États-Unis. Est-ce qu'il existe des registres officiels concernant l'adoption et la vente d'enfants?
Alors là, vous parlez des Mother and Baby Homes, ouais, plus oui, des Magdalene Laundries. Mmh. C'est la commission d'enquête sur les Mother and Baby Homes a commencé son travail en février 2015. On attend son rapport en 2018. On en saura un petit peu plus. Pour l'instant, elle recueille des témoignages. Je ne pense pas qu'elle ait davantage accès aux sources que les sources des Magdalene Laundries, puisque les congrégations religieuses verrouillent. Et que pour l'instant, l'État ne les force pas à rendre ses archives publiques.
Alors, avez-vous rencontré des victimes de ces institutions qui sont peut-être maintenant aujourd'hui de vieilles femmes ou pas forcément très vieilles d'ailleurs?
Alors, j'ai choisi de ne pas les interroger personnellement puisqu'il y a des associations. Vous avez très justement parlé de Justice for the Magdalens qui s'est occupée de les prendre en charge, de recueillir leurs témoignages dans des conditions particulières. Ce sont des femmes extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables, qui souffrent de graves traumatismes. Cela dit, j'en ai rencontré indirectement lors de cérémonies de commémoration à Dublin, notamment. Ce sont des femmes qui, si vous voulez, ce qui me fait énormément de peine et ce qui m'interroge aussi énormément, sont des femmes dont, aujourd'hui, il me semble que la mémoire est manipulée.
Par l'Église ? Par l'État aussi ?
Par l'Église, par l'État, par les médias, par la société.
Comment on les manipule ?
Alors,
qu'est-ce qu'on leur fait dire ou qu'est-ce qu'on fait en sorte qu'elles ne disent pas ?
Alors, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, parce que ça peut être une analyse qui est mal perçue. Je ne veux absolument pas remettre en cause leur souffrance, leur douleur. Mais il me semble qu'on les rend, si vous voulez, porteuses de ce discours qui va dédouaner un petit peu l'Irlande de tout ce qui s'est passé. On les laisse seules porter ce poids. Et il me semble que, à la fois de la part de l'Église et de la part de l'État et surtout des politiques irlandais, on fait davantage travail d'oubli que travail de mémoire.
Et on essaie d'avoir la complicité des victimes dans l'oubli, peut-être.
D'une certaine manière, on les fait répéter un discours. Alors, il est évident que ces femmes ont témoigné la première fois de manière tout à fait spontanée, ont eu besoin, c'était une parole qui se libérait, elles avaient besoin de parler. Et puis petit à petit, on a dû leur dire comment parler de ce traumatisme, comment parler de ce qu'elles ont vécu. Et c'est un discours qui me semble toujours un peu convenu.
Ça fait des témoignages édulcorés, c'est ça, par rapport à ce qu'elles ont vraiment vécu ?
Édulcorés. Et je pense qu'il contribue à peut-être dédouaner ou en tout cas amoindrir un petit peu la responsabilité qui, il faut impérativement le souligner, n'incombe pas exclusivement à l'Église, mais beaucoup plus à l'État irlandais.
Pourquoi vous dites ça ? C'est quand même l'Église qui au départ organise ça, avec la complicité de l'État, c'est ça que vous voulez dire ?
Moi je pense que c'est l'État avec la complicité de l'Église.
Ah.
J'irais plutôt dans ce sens-là. Tout le monde était au courant. Alors, les Magdalene Laundries étaient effectivement des institutions privées dans le sens où l'État ne les finançait pas, mais en réalité, ils subventionnaient énormément des travaux qui étaient effectués au sein des Magdalene Laundries. Ils y envoyaient des filles qui auraient dû séjourner dans des institutions psychiatriques, dans des prisons, et au lieu de payer pour que ces filles séjournent, on les envoyait gratuitement, entre guillemets, dans les Magdalene Laundries.
Alors, ce que vous dites là est grave hein, par rapport à l'Irlande, parce que ça veut dire que l'État, le gouvernement adhère au précepte de l'Église, au précepte réactionnaire. Il s'est construit là-dessus, et c'est un État confessionnel. Alors, ça n'est pas officiellement. Mais enfin, dans la démarche, c'est ça.
C'était dans la Constitution pendant de nombreuses années.
Ça l'a été, effectivement, pendant ces années-là.
Et on est encore dans une Constitution où l'avortement est anticonstitutionnel.
C'est vrai.
Bon.
Ces religieuses. On se demande, d'ailleurs, à travers le récit, mais comment ont-elles pu avoir un rôle comme ça de garde-chiourme, de capot, alors que ce sont des religieuses ? Qui sont ces femmes ?
Ces femmes, pour la plupart, sont elles aussi enfermées dans les institutions contre leur gré. La proportion de ces religieuses qui sont entrées dans les ordres par vocation devait être extrêmement faible. On parle d'une Irlande où on avait des taux de natalité très importants, des familles nombreuses, des bouches à nourrir. Et dans une famille, il n'était pas rare que deux garçons soient prêtres, deux filles soient religieuses. Et donc, elles se retrouvaient, si vous voulez, dans des conditions où elles étaient enfermées avec des filles qui représentaient exactement ce qu'elles n'étaient pas, ce qu'elles ne seraient jamais, ce qu'elles ne pourraient jamais être. Donc, c'était ce que j'appelle une bombe à retardement.
Alors, chacun le sait, un film très connu sur cette histoire a été réalisé par Peter Mullan. On va y revenir tout à l'heure. Deux autres films, hein. Il n'y a pas que Magdalene Sisters, il y a Philomena, c'est ça?
Alors, Philomena, c'est un film qui est réalisé par Stephen Frears avec Judi Dench, qui lui parle davantage d'une mother and baby home. Donc, c'est la quête d'une mère dont l'enfant lui a été arraché pour être vendu. Mm-hmm. À l'adoption, puisque c'était bien ce qui se passait, et qu'elle met des années à retrouver grâce à un journaliste. Mais comme c'est le cas d'Angela, elle ne le retrouve pas. Quand elle retrouve sa trace, il est décédé aux États-Unis.
Il y a un autre film ?
Il y a un autre film très intéressant, que je recommanderais vivement, qui est sorti à peu près en même temps que le film de Peter Mullen, qui s'appelle Sinners, qui est un film irlandais avec une des actrices, justement, du film de Peter Mullen, qui est peut-être un peu moins accrocheur, si ouais. vous voulez.
Il s'appelle comment celui-là ?
Sinners, les pécheresses.
Bien. Alors on va écouter une archive, on va écouter justement Peter Mullen à l'occasion de la sortie de son film, donc de Magdalene Sisters. Il revient sur le véritable sujet de son film. Oui, ce qui est dans son esprit le sujet de son film, c'est cela.
Oui, si le film a un sujet, c'est bien celui de la théocratie et de ses effets. Peu importe la religion, catholique, protestante, musulmane, juive, si une religion domine complètement une société, sans avoir en face d'elle un pouvoir démocratique élu qui la contrôle et agit comme un contre-pouvoir, si les religions ont tout le pouvoir, eh bien oui, je crois que ce type d'institution peut exister. Alors ça ne prend pas forcément, bien sûr, la forme de laverie contrôlée par l'Église. Mais d'une manière ou d'une autre, des femmes pourront être emprisonnées en toute illégalité.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, il a raison, bien entendu. Ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein.
C'est le cœur du sujet.
C'est le cœur du sujet. Mais c'est aussi... Il y a des enjeux qu'il ne faut pas perdre de vue. La pauvreté en était un, bien entendu. Et ça a un peu... tendance à être occultée quand on parle des Magdalene Laundries. Les filles qui étaient enfermées dans ces institutions, c'était des filles issues de familles pauvres. Une fille qui se retrouvait enceinte dans une famille aisée, on réglait son problème discrètement sans l'envoyer, sans l'enfermer dans une institution. Donc je pense que la question des classes sociales est aussi extrêmement importante.
Et Dieu sait, si j'ose dire, à quel point l'Irlande a été pauvre, victime de famine. Est-ce qu'il y a toutefois une complicité de la société irlandaise, la population ? Que dit-elle ? Que disait-elle et surtout que savait-elle ?
Tout le monde savait. Tout le monde savait. Tout le monde connaissait l'existence de la Magdalene Laundry, de la Mother and Baby Home. Restaurants, hôpitaux, casernes, hôtels envoyaient leur linge dans les blanchisseries, hein, dans les laundries. Les habitants des villes, des villages savaient également que ça existait. Vous dire qu'ils savaient ce qui s'y passait, je ne le ferai pas. Pour autant, personne ne cherchait trop à savoir et tout le monde se taisait. C'était vraiment une complicité générale. C'était tellement plus commode de pas chercher à savoir. Et de toute façon, qu'aurait-on fait de ces filles ?
En même temps, l'Irlande n'est pas une société d'inhumains, évidemment.
Pas du tout.
Il y a forcément des gens en Irlande qui ont les droits de l'homme et de la femme accrochés, hein, à leur esprit. Ils se sont peut-être battus. Il y a eu des initiatives comme ça, militantes ou pas, ou vraiment tout le monde s'est tu.
Ah, les initiatives militantes, elles datent du début des années 2000, pas avant.
Pas avant.
Pas avant, absolument pas.
Est-ce que d'autres pays ont été concernés par ce scandale ? Est-ce qu'il y avait des blanchisseries type Magdalene en France, par exemple ?
Il y en a eu en France, mais vous savez que j'ai retrouvé les traces des premières Magdalene Laundries au XIIIe siècle en Italie. C'était des maisons pour les repentis, des institutions catholiques pour les repentis. Mm-hmm.
On est au XIIIe siècle, hein, c'est différent.
On est au XIIIe siècle. Oui, ensuite, elles ont été... Ensuite, elles ont été exportées, le modèle a été exporté en Angleterre. Et quand, en 1801, l'Irlande est devenue britannique, ce qu'on appelait à l'époque des refuges, c'était des refuges à l'époque. Hein. Et vous aviez ça un peu dans toute l'Europe catholique. À la différence que, à partir du moment où les pays ont commencé à mettre en place des services sociaux prenait en charge les groupes les plus vulnérables de la société, ces institutions ne servaient plus à rien. C'était un peu comme l'époque où les hôpitaux, les écoles étaient gérés par les congrégations religieuses. La différence, c'est qu'en Irlande, le plein régime s'est mis en route à partir de l'indépendance.
À partir du moment où l'Église a verrouillé, à partir du moment où l'Église a imposé des principes qui ne toléraient pas, des principes de pureté, virginité, ne toléraient pas la moindre déviance de ces principes.
Bien, et on sait que parfois l'Église catholique, c'est « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais hein ». Alors depuis le début des années 2000, l'Église irlandaise ne cesse d'être ébranlée par des scandales à répétition. On pense notamment à l'affaire dite des prêtres pédophiles. En mai 2009, après une enquête de 9 ans, le rapport Ryan, du nom du juge Sean Ryan, avait révélé que des centaines d'enfants avaient été victimes d'abus sexuels à partir des années 40 dans des institutions religieuses de tout le pays. Alors je vous propose d'écouter un reportage sur le sujet diffusé sur France Inter le 15 février 2010.
Les évêques irlandais sont à Rome depuis ce matin. Ils ont été convoqués par le pape Benoît XVI au Vatican pour évoquer un des plus gros scandales ayant secoué l'Église catholique, celui des prêtres pédophiles ayant abusé de centaines d'enfants pendant plusieurs décennies. Si dans l'Église le pardon existe, il est un peu difficile à évoquer dans le cas présent à Rome, Éric Valmire.
Des actes exécrables. Le cardinal secrétaire d'État Burton donne la mesure de ces 48 heures d'entrevue. Avant de rencontrer un à un Benoît XVI, les 27 évêques irlandais ont écouté l'homélie de Tarcisio Burton ce matin. Les épreuves qui viennent de l'intérieur de l'Église sont naturellement plus dures et plus humiliantes. Il faut redonner la foi, là où des prêtres couverts par leur hiérarchie se sont livrés pendant des dizaines d'années à des actes pédophiles. Une faute inqualifiable, confirme le pape Benoît XVI dans un discours prononcé ce week-end. L'Église doit porter l'amour dans les cœurs.
Nathalie Seban, quand on entend ça, ça génère une question. Quels sont les rapports de la population irlandaise avec l'Église catholique aujourd'hui, après la révélation de ces scandales? Et aussi, quand on parle des Magdalènes, ça fait quand même des dossiers lourds.
Ça fait des dossiers très lourds. C'est la troisième grosse commission d'enquête. Donc il y a eu Brian dont vous venez de parler, il y a la McAleese sur les Magdalene Laundries, maintenant c'est les Mother and Baby Homes. Bon, il est évident que l'Irlande est un pays... peut-être pas totalement sécularisé, mais en phase extrêmement avancée de sécularisation. Il est également évident que tous ces scandales ont contribué à vider les églises. Et on observe aujourd'hui également une très forte crise des vocations au sein de l'Église catholique. Les séminaires sont quasiment vides. La croissance économique de l'Irlande, l'entrée de l'Irlande dans le capitalisme et libéralisme a également contribué à cette sécularisation. Pour autant, vous voyez que dans la campagne qui est menée aujourd'hui pour que le 8e amendement qui rend l'avortement anticonstitutionnel soit abrogé, on a encore des rémanences de ce pouvoir insidieux de l'Église catholique dans la société, et peut-être davantage dans la politique et chez les hommes politiques irlandais.
Comment ça se manifeste?
Ça se manifeste par une réticence à légiférer sur la question, quel que soit le parti.
Merci infiniment, Nathalie Seban.
Merci à vous.
Pour ces éclairages que vous nous avez apportés sur cette sombre histoire sur laquelle vous avez beaucoup travaillé avec, j'imagine, pas mal de courage. Ça n'a pas dû être facile. Merci en tout cas. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Magdalene Sisters, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'affaire Tony Muselin.
Et merci à vous Fabrice Drouel. Rendez-vous dès demain 15h sur France Inter.